Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, La gloire de mon père, de Marcel Pagnol. La gloire de mon père est le premier tome des souvenirs d'enfance, un roman autobiographique de Marcel Pagnol paru en 1957. Le récit, qui débute avec la naissance de l'auteur le 28 février 1895 à Aubagne, raconte son enfance à Marseille, ses premières années passées à l'école primaire, ses vacances en famille près du village de La Treille, pendant l'été de 1904, et prend fin sur les exploits de son père durant une partie de chasse dans les collines du massif du Garlaban. À partir de 1904, inquiet pour la santé de sa mère, dont les poumons sont fragiles, son père décide de louer pour les vacances une villa dans la colline, juste au bord d'un désert de garrigues qui va d'Aubagne jusqu'à Aix, la Bastide de Neuve, située à proximité du village de La Treille, à la périphérie de Marseille. Les collines qui l'entourent constituent ce paradis de l'enfance heureuse où se déroulent les plus beaux épisodes des souvenirs d'enfance. C'est une autobiographie embellie par le temps et l'imagination, l'auteur laissant courir son imagination pour redonner vie à ceux qui l'ont entouré durant ses jeunes années, comme l'oncle Jules, le chasseur d'une sagacité sans égale qui roule les airs comme un ruisseau roule les graviers. Tout semble opposer son père. Joseph, l'instituteur anticlérical, au truculent et catholique oncle Jules. Ces vacances sont une révélation pour le jeune Marcel et pour son frère, qui tombent tous les deux amoureux des collines emblématiques de la Provence, de sa végétation sauvage, de ses massifs de roches, Garlaban, Tête Rouge, le Taoumet. La gloire de mon père connaît un immense succès, plus de 50 000 exemplaires vendus en un mois, et le deuxième tome, Le château de ma mère, s'inscrit en tête du classement des meilleures ventes de l'année 1958. Marcel Pagnol est né le 28 février 1895 à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Il est le fils de Joseph Pagnol, 1869-1951, instituteur à Aubagne depuis 1889, laïque et républicain, et d'Augustine Polite Henriette Lanceau, 1873-1910, couturière à la santé fragile de confession catholique. Il est l'aîné de trois autres enfants, Paul, né en 1898, Germaine, née en 1902, et René, née en 1909. Son père est nommé à l'école du Chemin des Chartreux, la plus grande école communale de Marseille, de 1900 à 1908, et la famille s'installe à Marseille. Marcel Pagnol entre en 1905 au lycée Thiers, où il fait de brillantes études malgré une vie mouvementée de demi-pensionnaire qu'il racontera dans les deux derniers tomes de ses souvenirs, Le temps des secrets et Le temps des amours. Dès lors, il commence à écrire des poèmes qui paraissent à partir de 1910 dans la revue Massilia. Au lycée, à la même période, il se lie d'amitié avec le futur romancier Albert Cohen. Il n'a que 15 ans à la mort de sa mère, avec qui il entretenait une relation fusionnelle. Le 30 juillet 1912, son père se remarie avec Madeleine Julien, veuve qu'il avait engagée pour s'occuper du ménage et qui n'a que 8 ans de plus que Marcel. Ce dernier l'accepte mal, au point de se brouiller avec son père. Au début de la Première Guerre mondiale, Marcel Pagnol est mobilisé pour son service militaire au 163e régiment d'infanterie de Nice. Il est réformé en janvier 1915 pour faiblesse de constitution et ne participe donc pas au conflit. Le 2 mars 1916, il épouse Simone Collin. En novembre 1916, il obtient une licence de lettres. Nommé répétiteur d'anglais, il est successivement affecté dans les collèges de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, Tarascon, en Bouches-du-Rhône, Pamiers, en Ariège et Aix-en-Provence, puis promu professeur adjoint et nommé au lycée Saint-Charles à Marseille, où il exerce de 1920 à 1922. En 1922, il est nommé au lycée Condorcet de Paris comme professeur adjoint. En 1927, il décide de prendre congé de l'éducation nationale pour cause de littérature. Il devient célèbre avec Topaze, pièce de théâtre créée en Allemagne en 1927, puis présentée en France en octobre 1928. Il fonde à Marseille en 1934 sa propre société de production et ses studios de cinéma, puis réalise de nombreux films avec les grands acteurs de la période, parmi lesquels Rému, Fernandel et Pierre Fresnay, dans les films comme Angèle en 1934, Regain en 1937 ou La femme du boulanger en 1938. L'année 1929 est décisive pour sa carrière. Il assiste à Londres à la projection d'un des premiers films parlants, Broadway Melody, et l'année est si bouleversée qu'il décide de se consacrer au cinéma parlant. Séparé de Simone Collin depuis 1926, il rencontre la jeune danseuse anglaise Kitty Murphy. De leur union, né en 1930, Jacques Pagnol, qui deviendra l'assistant de Marcel après la guerre. Le 28 juillet 1932, son frère Paul, le dernier chevrier des collines d'Allot, à qui il rend souvent visite dans les collines où il a passé avec lui son enfance, meurt à l'âge de 34 ans. Devant le succès de Marius, la Paramount a fait l'acquisition début 1932, sans son accord, des droits d'adaptation de sa pièce Topaze. Pagnol réussit à participer au tournage, mais s'estime dépossédé de son œuvre. Il tournera plus tard lui-même deux autres versions de Topaze, en 1936 avec Alexandre Arnaudy et en 1950 avec Fernandel. Désormais devenu riche, il décide de devenir producteur et fonde au printemps 1932 à Paris sa propre société de production. Il installe ses studios à Boulogne-Billancourt, au bord de la Seine, et à Marseille, en plein cœur du célèbre quartier du Prado. En 1932, il rencontre l'écrivain de la Haute-Provence, Jean Giono, qui l'incite à s'intéresser au cinéma. Il vit désormais avec Orane de Mazis, qui incarnait tous les soirs le personnage de Fanny dans Marius et Fanny. Ils ont un fils en 1933. En 1940, le régime de Vichy essaie de récupérer Pagnol et son œuvre au service du régime. Il subit des tentatives de pression et des intimidations pour mettre son studio au service du régime de Pétain. Il accepte de rejoindre le comité d'organisation de l'industrie cinématographique de Vichy dans l'espoir d'en faire un centre de résistance à la mainmise allemande sur le cinéma national, mais y échoue et ne s'y rend plus à partir de 1942. En 1944, Marcel Pagnol est élu président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Chargé de constituer une commission d'épuration, il s'emploie à défendre les nombreux auteurs et artistes ayant contribué à travailler pendant l'occupation. En 1946, âgé de 51 ans, il est élu à l'Académie française. Il devient le premier cinéaste reçu sous la coupole. Après 1956, il s'éloigne du cinéma et du théâtre et entreprend la rédaction de ses souvenirs d'enfance avec notamment « La gloire de mon père » et « Le château de ma mère ». Il publie enfin, en 1962, « L'eau des collines », roman en deux tomes, Jean de Florette et Manon des Sources, inspiré de son film « Manon des Sources », réalisé 10 ans auparavant et interprété par Jacqueline Pagnol. Atteint d'un cancer, Marcel Pagnol meurt le 18 avril 1974 à l'âge de 79 ans. Son corps repose au cimetière marseillais de la Treille, auprès de sa mère et de sa dernière fille, Estelle, non loin du caveau de la famille Pagnol où reposent son père et sa seconde femme, Madeleine Julien, ses frères et sœurs et leur famille. Sur sa tombe, en guise d'épitaphe, une citation de Virgile, « Fontes amicos uxorem dilexi ». Il a aimé les sources, ses amis, sa femme. Sa dernière épouse, Jacqueline, meurt le 22 août 2016 à 95 ans. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvonne. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence, et parfois un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline. C'est Garlaban, où les guetteurs de Marius, quand ils virent au fond de la nuit briller un feu sur Sainte-Victoire, allumèrent un bûcher de broussailles. Cet oiseau rouge, dans la nuit de juin, vola de colline en colline et se posant enfin sur la roche du Capitole, apprit à Rome que ses légions des Gaules venaient d'égorger dans la plaine d'Aix les 100 000 barbares de Teutobochus. Mon père était le 5e enfant d'un tailleur de pierre de Valréas, près d'Orange. La famille y était établie depuis plusieurs siècles. D'où venait-il ? Sans doute d'Espagne, car j'ai retrouvé dans les archives de la mairie des l'Espagnol, puis d'Espagnol. De plus, ils étaient armuriers de père en fils, et dans les eaux fumantes de Louvèze, ils trempaient des lames d'épée, occupation, comme chacun sait, notablement espagnole. Cependant, parce que la nécessité du courage a toujours été inversement proportionnelle à la distance qui sépare les combattants, les tromblons et les pistolets remplacèrent bientôt les espadons et les cloches marles. C'est alors que mes aïeux se firent artificiers, c'est-à-dire qu'ils fabriquèrent de la poudre, des cartouches et des fusées. L'un d'eux, un arrière-grand-oncle, jaillit un jour de sa boutique à travers une fenêtre fermée, dans une apothéose d'étincelles, entourée de soleil tournoyant sur une gerbe de chandelles romaines. Il n'en mourut pas, mais sur sa joue gauche, la barbe ne repoussa plus. C'est pourquoi, jusqu'à la fin de sa vie, on l'appela le rusti, c'est-à-dire le rôti. C'est peut-être à cause de cet accident spectaculaire que la génération suivante décida, sans renoncer aux cartouches ni aux fusées, de ne plus les garnir de poudre, et ils devinrent cartonniers, ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Voilà un bel exemple de sagesse latine. Ils répudièrent d'abord l'acier, matière lourde, dure et tranchante, puis la poudre, qui ne supporte pas la cigarette, et ils consacrèrent leur activité au carton, produit léger, obéissant, doux au toucher, et en tout cas non explosible. Cependant, mon grand-père, qui n'était pas monsieur l'aîné, n'hérita pas de la cartonnerie, et il devint, je ne sais pourquoi, tailleur de pierre. Il fit donc son tour de France et finit par s'établir à Valréas, puis à Marseille. Il était petit, mais large d'épaules et fortement musclé. Lorsque je l'ai connu, il portait de longues boucles blanches qui descendaient jusqu'à son col et une belle barbe frisée. Ses traits étaient fins, mais très nets, et ses yeux noirs brillaient comme des olives mûres. Son autorité sur ses enfants avait été redoutable, ses décisions sans appel. Mais ses petits-enfants tressaient sa barbe ou lui enfonçaient dans les oreilles des haricots. Il me parlait parfois, très gavrement, de son métier, ou plutôt de son art, car il était maître appareilleur. Il n'estimait pas beaucoup les maçons. « Nous, disait-il, nous montions des murs en pierre appareillée, c'est-à-dire qui s'emboîtent exactement les unes dans les autres, par des tenons et des mortaises, des embravements, des queues d'aronde, des traits de Jupiter. Bien sûr, nous coulions aussi du plomb dans les rainures pour empêcher le glissement, mais c'était incrusté dans les deux blocs, et ça ne se voyait pas. Tandis que les maçons, ils prennent les pierres comme elles viennent, et ils bouchent des trous avec des paquets de mortier. Un maçon, c'est un noyeur de pierres, et il les cache parce qu'il n'a pas su les tailler. » Dès qu'il avait un jour de liberté, c'est-à-dire 5 ou 6 fois par an, il emmenait toute la famille déjeuner sur l'herbe, à 50 mètres du pont du Gard. Pendant que ma grand-mère préparait le repas et que les enfants pataugeaient dans la rivière, il montait sur les tabliers du monument, prenait des mesures, examinait des joints, relevait des coupes, caressait les pierres. Après le déjeuner, il s'asseyait dans l'herbe, devant la famille en arc de cercle, en face du chef-d'œuvre millénaire, et jusqu'au soir, il le regardait. C'est pourquoi, 30 ans plus tard, ses fils et ses filles au seul nom du pont du Gard, levai les yeux au ciel et poussai de longs gémissements. J'ai sur ma table de travail un précieux presse-papier. C'est un cube allongé, en fer, percé en son centre d'un trou ovale. Sur chacune des faces extrêmes, un entonnoir assez profond est creusé dans le métal refoulé. C'est la massette du grand-père André, qui frappa pendant 50 ans la dure tête des ciseaux d'acier. Cet homme habile n'avait reçu qu'une instruction sommaire. Il savait lire et signer, mais rien de plus. Il en souffrit secrètement toute sa vie, finit par croire que l'instruction était le souverain bien et il s'imagina que les gens les plus instruits étaient ceux qui enseignaient les autres. Il se saigna donc aux quatre veines pour établir ses 6 enfants dans l'enseignement. Et c'est ainsi que mon père, à 20 ans, sortit de l'école normale d'Aix-en-Provence et devint instituteur public. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourouard. À bientôt.